Alors bienvenue dans cette chapelle, magnifique chapelle, sous la protection de Saint-Claude de la Colombière. Dans mes souvenirs, il n'y a que deux jésuites français qui sont canonisés. Deux. Français, hein, parce qu'ils ont beaucoup de saints. Et je crois que c'est Claude de la Colombière et avant lui, François Régis. Saint-Jean-François Régis. Un saint qui a beaucoup travaillé en Ardèche, qui est mort en confessant. Ce que je vous propose, en fait, c'est un carrefour en deux étapes. L'idée, c'est de travailler avec vous le Notre Père, le texte évangélique du Notre Père. C'est tellement riche qu'on le fait en deux carrefours. Je fais un premier carrefour aujourd'hui où je vais regarder les introductions à Notre Père et vous allez voir que, en fait, Jésus lui-même donne des précisions vraiment importantes pour le sens même, en fait, du Notre Père. Donc, je voudrais prendre du temps à ce sujet. Vraiment, pour Jésus, le Notre Père a un statut très spécial. Je vais essayer de vous montrer que ce n'est pas pour lui, tel qu'il est écrit dans les évangiles, une formule liturgique, qu'il y a bien plus en fait derrière. Aujourd'hui, je vais travailler deux passages des Écritures qui précèdent le Notre Père. Et puis, il y a dans les évangiles deux versions du Notre Père. Vous savez qu'il y a trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, on les appelle synoptiques parce que quand on les met en colonne les uns à côté des autres, on voit qu'il y a des passages parallèles. On travaille comme ça en synopse. Et vous avez une version du Notre Père chez saint Matthieu et une version du Notre Père chez saint Luc. Chez saint Matthieu, c'est au chapitre 6, au verset 9 à 13. Donc Matthieu 6, 9 à 13, et chez Luc, c'est au chapitre 11, versets 2 à 4, 11, 2, 4 chez Luc. Je rajoute cela dans ce carrefour de me promener avec vous dans les Écritures Saintes, puisque pour commenter, c'est une des règles d'interprétation les plus importantes, notamment chez les pères de l'Église, on interprète l'Écriture par l'Écriture. Quand on a une difficulté, on va voir ailleurs pour essayer de trouver une solution. Je voudrais vous montrer comment Jésus lui-même introduit le Notre Père dans saint Matthieu. Donc là, je vais lire. C'est le chapitre 6, versets 7-8. Je vais faire une première partie assez longue sur ces deux petits versets. Chapitre 6, versets 7-8. Alors voilà ce que dit Jésus avant d'enseigner le Notre Père aux disciples. Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens. Ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. N'allez pas faire comme eux, n'allez pas prier comme les païens, n'allez pas faire comme eux, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Matthieu 6, versets 7 à 8. Quand Jésus dit ne rabâchez pas, ne priez pas comme les païens, quel est le problème? Qu'est-ce que Jésus reproche à la prière des païens? Ce qu'il reproche à la prière des païens, donc les païens dans l'Écriture, c'est ceux qui n'ont pas reçu la révélation de Dieu. Pour un juif, un païen, c'est un non-juif. Pas reçu la Torah. Pas reçu les 10 commandements, il n'a pas reçu la parole. Alors qu'est-ce qu'il reproche à la prière des païens? Eh bien vous voyez, c'est finalement de penser, puisqu'il y a beaucoup de rabâchage, de bruit, etc., c'est d'imaginer que Dieu est loin. Que Dieu est lointain, qu'il faut donc en quelque sorte, vous voyez, comme un Dieu qui ne ferait pas beaucoup d'efforts pour écouter, alors il faudrait le sortir de son sommeil, le réveiller et l'obliger à écouter. Vous voyez, comme si la prière consistait en quelque sorte forcer le cœur d'un Dieu un petit peu lointain, un peu qui ne s'intéresserait pas finalement beaucoup à ce qui nous arrive. Et pour Jésus, il ne s'agit absolument pas de prière. Au fond, pour lui, ce n'est pas de la prière. Alors pour vous montrer un exemple comme ça de rabâchage de prière chez les païens, vous en avez un magnifique dans le premier livre des rois. Le premier livre des rois, au chapitre 18, c'est là aussi un épisode bien connu, ce qu'on appelle le sacrifice du Mont Carmel. Donc on est à un moment au 8e siècle avant le Christ où le royaume d'Israël, le royaume du Nord, est totalement gangréné par ce qu'on appelle l'idolâtrie. Donc finalement, la fidélité à la parole de Dieu, à la révélation de Dieu est très, très peu présente. Il n'y a que Élie et quelques autres qui sont restés fidèles à la loi de Moïse. Et puis les autres sont devenus tous idolâtres. Il y a des sacrifices, etc., des idoles. Élie propose aux prêtres idolâtriques, aux prêtres idolâtres, de faire une sorte de concours. On pourrait dire quoi, de concours, de lutte. Ils montent sur le Mont Carmel. Chacun prépare un autel de chaque côté.